Alors, j'ai maintenant, je change de casquette, forcément, puisque je suis censé présider cette session. Et j'ai le très grand honneur d'inviter Laurent Bell, vous le connaissez tous, directeur général de la Cité de la Musique et de la Philharmonie de Paris, surtout. Et je crois qu'on va d'ailleurs commencer par un extrait d'une vidéo que Amos a préparée.
On va voir un extrait qui était fait partie des spectacles qu'on a fait à la Philharmonie de Paris, chronique d'un assassinat sur l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Et c'est un extrait qu'on a fait avec le Caire, proposé par Laurent Bell. Et c'est Laurent Truchot qui va nous présenter cet extrait. Sur l'assassinat d'Yitzhak Rabin, que l'année prochaine on va marquer 25 ans, un quart de siècle de cet assassinat, et que Laurent Bell nous avait invité de montrer à la Philharmonie de Paris le 8 octobre.
Merci. Donc, je ne sais pas vraiment ce qui m'est passé par la tête d'accepter une communication sur un thème aussi complexe qui me dépasse de loin. Disons disons que c'est le plaisir de me retrouver à tes côtés, cher Amos. Alors, nous savons tous que la mémoire joue un rôle important dans l'acte de création. Je dirais particulièrement en musique, qui est par excellence un art du temps. Mais cette évidence ne doit cependant pas masquer le fait que toute œuvre nouvelle significative va témoigner à la fois d'une part d'héritage, bien sûr, mais également d'un certain degré de rupture avec le passé. Et en cela, l'œuvre s'oppose en partie à celle qui l'a précédée. Alors ce n'est pas que le souvenir s'oppose à l'émergence du nouveau, ce serait même plutôt une condition de sa reconnaissance. En fait, l'opposition se situe au niveau des codes qui vont déterminer la forme d'une œuvre, puisque ces derniers, qui appartiennent à une époque et à une société donnée, réclament à un certain moment leur transgression, même lorsque, et la musique contemporaine peut en être le symbole, même lorsque le public tend, ou une partie du public tend à tenir cette subversion à distance. Alors, approfondir ce point de départ, d'une part, exigerait de trop longs développements et surtout des compétences philosophiques dont je suis dépourvu. Je vais donc me contenter d'effleurer le sujet à travers trois remarques assez parcellaires, avant de revenir brièvement sur l'œuvre qu'Amos Gitaï a présentée à la Philharmonie de Paris en décembre 2018 et dont un extrait vient de nous être proposé. Cet extrait, en fait, étant centré sur l'œuvre musicale de Giorgi Ligeti qui s'appelle Lux Aeterna, pour un chœur de chambre. Première remarque, au cours de son développement du Moyen-Âge à nos jours, la musique occidentale a cessé de s'accommoder de l'ordre existant et a affirmé l'autonomie de son processus créateur, principalement ou notamment en s'émancipant de sa subordination aux phénomènes religieux et aux phénomènes sociaux. C'est assez clair quand on regarde l'évolution des formes musicales. Et en renvoyant notamment aux travaux du compositeur et philosophe Hugues Dufour, Hugues Dufour est l'un des fondateurs d'un courant qu'on appelait de musique spectrale en France, avec notamment Gérard Griset, Tristan Murail ou le fils du philosophe Lévinas, Michael Lévinas. Et d'une certaine manière, stylistiquement, il y a des rapprochements à faire avec la musique de Giorgi Ligeti que vous avez entendue. Et Hugues Dufour est certainement la tête pensante de ce courant. Et on peut regretter d'ailleurs que sa musique ne soit pas plus diffusée aujourd'hui dans les différents lieux musicaux, mais ça renverrait à un débat sur le conformisme des programmateurs. Donc, en renvoyant aux travaux d'Hugues Dufour, nous pouvons affirmer que l'Antiquité, dont je remonte assez loin, avait totalement limité la mémoire à sa seule faculté contemplative et des techniques très très strictes de répétition était là pour dicter le respect de l'ordre existant, un peu comme s'il s'agissait de refouler le risque du chaos lié à la mémoire infidèle. On pourrait presque faire des rapprochements civilisationnels en comparant ça avec les stricts ordonnancements de rituels que vous trouvez au Japon, dans le No, ou Gagaku ou d'autres formes. Alors, à partir du XIVe siècle, on va dire, L'Ars Nova conçoit en revanche pour la première fois la musique comme une création de la pensée humaine avec un pouvoir poétique propre qui récuse l'idée d'une référence à des modèles indépassables. La mémoire, à travers l'Ars Nova, n'est dès lors plus synonyme de conservation de l'ordre, mais en ouvrant un horizon, devient une force de transformation. Cette émergence coïncide bien sûr avec l'avènement de la conscience historique européenne et plus largement d'une histoire universelle qui reste alors bien sûr à réaliser. La création musicale ici peut se comprendre comme une incarnation de cette conscience. De même qu'à l'époque, la civilisation se propose alors de transformer la nature parce qu'elle ne se satisfait plus d'en subir les contraintes, de même, la musique vise désormais à instaurer un nouvel ordre qui sera fondé sur l'artisanat. Alors, des siècles après, René Char dira l'artisanat furieux, et sur l'expérimentation technique. Cette évolution musicale a d'ailleurs été tributaire d'une seconde révolution, à savoir l'introduction également au XIVe siècle de la mesure du temps, ce qui est une question centrale, tout le monde peut le comprendre, en musique. C'est en effet au XIVe siècle qu'arrive le temps de l'horloge, de la chronométrie, avec l'usage généralisé des techniques de comptabilité qui vont favoriser le mercantilisme, la capacité à mieux évaluer les risques va accompagner à ce moment-là la mutation du système bancaire, commercial et juridique. Alors bien sûr, dès le XIIe siècle, la polyphonie, par exemple, en musique, se fondait déjà sur une véritable écriture musicale, mais c'est à partir du XIVe siècle que la musique occidentale a réellement développé son organisation et son agencement rationnel, ses calculs rythmiques, son découpage du temps, tous ses jeux formels d'écriture, bref, tout ce qui lui a permis d'affirmer l'autosuffisance d'un art désormais générateur de plaisir auditif. Donc, partant de là, je tenterai une première synthèse un peu hâtive, issue, comme je l'ai dit, des travaux d'Hugues Dufour. La création musicale, au sens où nous l'entendons, a participé d'un mouvement général de la civilisation, non pas en se libérant de la mémoire, mais en libérant la mémoire. Deuxième remarque, qui essaye un peu de prolonger la première, c'est que l'acte créateur, autant qu'on puisse le définir, plus ou moins novateur, inclut toujours la contradiction suivante. S'il n'y a pas de création sans mémoire, il n'y en a pas non plus sans oubli. L'histoire le montre, cet oubli, difficile à cerner, n'est jamais complet. Simplement, les traces que le passé va laisser en toute création sont plus ou moins visibles. Et à cet égard, même les révolutions formelles importantes en musique du XXe siècle, début du XXe siècle et après la Seconde Guerre mondiale, qui se sont avérées bien plus que de simples révoltes, n'ont pas fait table rase de tout, pas plus que ce qu'on a qualifié de récente postmodernité n'a pu extirper toute modernité. La négation, en fait, se nourrit de ce qu'elle va nier, et aussi pour tout art qui revendique sa propre modernité et qui revendique le droit à l'amnésie, ce qu'il convient, ce qu'il est intéressant d'interroger, c'est la force, la nature de la rupture. En effet, la puissance de l'oubli peut parfois faire émerger une autre mémoire. Ce serait une mémoire qui imagine, plutôt qu'elle ne répète, qui ne soit pas la simple inscription donc, dans le temps présent, mais qui, appréhendant également le passé comme passé, ouvre la création sur une forme de transcendance. Alors, pour essayer d'être moins abstrait, je vais m'expliquer en convoquant l'exemple de deux compositeurs qui incarnent fortement cette vision, on va dire, de la transcendance sans mysticisme aucun, encore que pour l'un des deux on peut discuter. Je veux parler de Richard Wagner et de Pierre Boulez. De nombreuses correspondances, en fait, relient à distance ces deux créateurs qui tous deux, ou que tous deux, on peut qualifier comme étant en quête éperdue de totalité. Un même désir, par exemple, d'englober chaque œuvre particulière dans une œuvre plus vaste. Si on considère que la gestation du ring, donc les quatre panneaux du ring, s'étale sur 26 ans, Pierre Boulez, lui, pense ses différentes œuvres comme les facettes multiples d'une seule œuvre. Autre exemple, c'est chez les deux compositeurs, au-delà de, bien sûr, des écarts de style et de langage, le fait que tous deux éprouvent le même amour des proliférations gigantesques à partir d'un noyau central. Ce noyau central chez Wagner, c'est ce qui structure son œuvre, ce qu'on appelle le leitmotiv. Et chez Boulez, ce sont des figures récurrentes qui reviennent. Alors bon, sûr, si vous n'avez pas écouté de Boulez, on ne sait pas trop ce que je vais dire, mais disons ce qu'on appelle des trilles ou des notes répétées, caractérisent le langage de Boulez et qui font que même des personnes qui ne sont pas forcément habilitées ou les compétences pour lire une partition sur une écoute comme ça... Ah oui, ça c'est Boulez, c'est une caractérisation du style boulezien. Alors ces deux compositeurs ont tous deux violemment revendiqué un droit à l'amnésie. Je cite maintenant Wagner dans sa correspondance avec Franz Liszt, ouvrez les guillemets, où l'artiste peut-il puiser ses créations si ce n'est dans la vie qui n'a de valeur productive que lorsqu'elle le pousse à créer des formes nouvelles. Ce travail qui consiste à revenir sur des moments de la vie d'autrefois, est-ce là créé pour l'artiste ? Que devient la source de l'art si le nouveau n'en jaillit pas avec une force irrésistible? Quelle suffisance doublée de quelle pauvreté ne trahit-on pas quand on veut revenir ainsi sur des tentatives faites dans un autre temps? Faites du nouveau, si vous vous accrochez aux vieilleries, vous deviendrez les plus piètres artistes du monde. Un siècle à peu près plus tard, Boulez, qui à mon avis se serait senti à l'aise dans cette déclaration, prolongera cette vision évolutive de l'art, et je le cite maintenant plus brièvement, « On ne peut bien sûr échapper à la connaissance de sa propre culture et aujourd'hui à la rencontre avec celle des autres civilisations, mais comme il devient impérieux le devoir de les volatiliser, je loue et je louerai toujours l'amnésie. » Il y a d'ailleurs un article célèbre de Boulez qui avait fait scandale, mais uniquement par son titre, personne ne l'a jamais lu, c'est pas grave. C'est un article publié en Angleterre dans la revue The Score en 1952, premier anniversaire de la mort de Schoenberg. Et Pierre Boulez, qui était toujours très bon pour trouver les titres, a titré Schoenberg is dead. Donc Schoenberg est mort. Et en fait, bon, le contenu de l'article, c'était arrêter de nous accoler à ma génération. Arrêter de nous rapprocher continuellement des expérimentations viennoises, nous sommes déjà bien au-delà. Alors, à l'époque, on avait trouvé ça irrévérencieux de se permettre d'interpeller comme ça un autre artiste, dont les gens pensaient qu'il, au contraire, il était en totale osmose avec. Alors, comment interpréter ces différents propos sur l'amnésie? De quel oubli est-il ici question? Je vais emprunter maintenant à une étude comparée de Wagner, Proust et Boulez, qu'a proposé un musicologue qui, d'ailleurs, est, me semble-t-il, familier également du Collège de France et qui a souvent suivi les travaux, d'ailleurs, de Pierre Boulez et retranscrit ses cours ici même. Il s'agit de Jean-Jacques Nathiès, qui intervient surtout à Montréal, mais qui est très connu dans les milieux musicologiques internationaux. Et à travers ces études, nous pouvons postuler que pour ces deux créateurs, donc Wagner et Boulez, l'amnésie revendiquée représente en fait la même volonté farouche d'arracher l'œuvre aux contingences du temps. Et c'est en ce sens que je parlais tout à l'heure d'une mémoire inventive qui pourrait ouvrir l'œuvre sur une forme de transcendance. L'oubli s'impose à eux comme une condition de la création. Alors Boulez l'a souvent répété, la grande page de notre histoire, dont Beethoven était le nom et l'incarnation, devait absolument être tournée. De même, pour lui, il ne servait à rien de pasticher les formidables inventions rythmiques de Stravinsky ou de reproduire le langage de Schoenberg. Et d'ailleurs, Boulez reprochait à Stravinsky qu'après un départ aussi extraordinaire que le sac, l'oiseau ou Petrouchka, il se soit laissé aller à quelques pastiches empruntées de relations avec Cocteau ou autres dans une époque néoclassique. Mais par ailleurs, cette volonté irréductible d'oubli, dans sa détermination, devient un ferment de l'œuvre à accomplir. À travers elle, une autre forme de mémoire parvient à s'activer, qui se situera à un niveau plus élevé de généralité et d'abstraction. Et dans cette mémoire-là, il ne s'agit pas de s'inspirer d'un style, mais de s'inspirer des idées impliquées par un style, quelle que soit l'époque ou le continent dans lequel ces idées se soient projetées. Je peux m'inspirer, chez Boulez, du no, non pas en imitant le no, mais en cherchant certains concepts supérieurs que je vais retrouver dans telle sonorité de telle percussion. Et pour appréhender ce niveau d'abstraction, Jean-Jacques Nathiès nous suggère un détour par Proust, pour qui également ce n'est pas le sujet d'une œuvre d'art qui en fait son importance. Alors je cite Proust dans Le Temps retrouvé, « Un livre n'est qu'un grand cimetière. Même les êtres qui furent les plus chers à l'écrivain n'ont fait en fin de compte que poser pour lui comme chez les peintres. Ce qui importe, chez Proust, c'est qu'un jeune homme réussira à écrire un livre qu'il porte en lui, non seulement après avoir compris comment opèrent les mécanismes de la mémoire, mais également en ayant renoncé aux séductions du monde et à l'amour. L'oubli d'Albertine, finalement, compte peu, puisqu'il aura permis au romancier de capter l'essence de l'amour et sa contrepartie, la déception. Donc j'en déduis ici une seconde tentative de synthèse, qui est simplement de dire que l'oubli peut effectivement devenir l'une des conditions d'une forme de mémoire qui ne cherche pas à reproduire, à imiter, mais qui va fonder l'invention sur un certain nombre de concepts dérivés de formes existantes. D'une certaine manière, on retrouve ça dans l'œuvre de Boulez, il s'est nourri tout aussi bien de l'Ars Nova que j'ai cité, que du structuralisme, en regardant aussi du côté du Bauhaus cher à Amos ou de l'architecture. Et si vous regardez les titres de ses œuvres, Anthème, Répond, on voit bien qu'il y a une recherche d'inspiration à quelque chose hérité de formes anciennes, mais pas simplement au niveau de l'imitation d'un style, mais au niveau d'un certain nombre de procédures. Alors, troisième et dernière remarque plus brève, c'est qu'il n'est pas inutile de s'interroger sur la fiabilité des comparaisons que nous établissons en matière musicale entre différentes périodes historiques. Il y a d'abord le fait que toute période, toute époque, et la nôtre tout autant que les autres, a tendance à projeter le reflet d'elle-même. Donc le sens donné à l'histoire va bien sûr infléchir notre perception et notre conception du nouveau. Une autre limite plus structurelle vient du fait que toute tentative d'énoncer des généralités se heurte à la singularité de l'œuvre, singularité revendiquée de l'œuvre que j'évoquais au début de mon propos. Donc, on peut bien sûr fonder, comme j'ai essayé de le faire, un jugement sur l'analyse du cadre général et des contraintes que va générer un contexte, mais d'un autre côté, plus la dimension individuelle de l'art est mise en avant, plus les tentatives d'analyse et de codification deviennent fragiles. En ce sens-là, les voies multiples de la création semblent quand même interdire toute évaluation d'ordre général. Le recul permet d'ailleurs à cet égard de constater que le XXe siècle, celui dont j'ai parlé avec ses différentes mutations, notamment l'après-Seconde Guerre mondiale, a contribué à accentuer cette multiplicité, cette diversité de la création. La musique, en accueillant les sujections de son époque, a cultivé les différences de style. Elle n'a cessé d'explorer ses limites. Alors, ça n'est pas exclusif à la musique, hein, on peut le reproduire sous d'autres formes, bien sûr. Elle n'a cessé également de reculer les frontières de ce qui pourrait être considéré comme l'art. Et dans son développement propre, la musique a d'une certaine manière tourné le dos à l'utopie des Lumières qui visait à fonder un art universel. Strate après strate, il semblerait même parfois qu'elle se soit cette musique que certains appellent contemporaine, diffractée en d'innombrables courants dont les contours nous sont encore trop insaisissables pour pouvoir y lire une signification historique à grande échelle. Donc à travers cette limite de la capacité à analyser ce que nous observons au niveau de la création, nous courons à nouveau le risque de l'enfermement dans une opposition stérile, celle de la rupture face à un passé perçu simplement comme le poids de l'héritage. Personnellement, j'y pense que, tout en reconnaissant et tout en assumant les limites de la réflexion historicisante, il ne faut pas renoncer à l'analyse des grandes mutations historiques, car elle permet au moins de comprendre une chose, c'est que toute rupture n'est intégrée que si la continuité parvient à demeurer simultanément. Donc il ne s'agit pas d'opposer les deux termes. Si on observe ainsi l'histoire de la musique, on s'aperçoit que, à l'époque baroque, par exemple, l'abandon des structures rythmiques complexes que le XIVe siècle avait amenées ne masque pas la poursuite de l'évolution harmonique du langage. De même, lorsque par la suite, mettons ça fin XVIe siècle, XVIIe siècle, la forme sonate s'est imposée, cette mutation n'a pas constitué une pure et simple coupure sur le plan de l'écriture. Plus tard, vers le XIXe siècle tardif, l'émergence du timbre, de la virtuosité, n'a fait que prolonger les avancées amenées par Beethoven. Et quant au XXe siècle dont j'ai parlé, celui de Schoenberg, il serait aisé de démontrer tout ce qui relie ce compositeur à Wagner et même à Brahms, qu'on opposait lui-même à Wagner, comme étant lui le conservateur, dont Brahms, dont Schoenberg a fortement revendiqué l'héritage. De ce constat-là, je serais tenté de tirer une dernière synthèse qui solliciterait la société dans laquelle nous vivons, c'est qu'il n'y a pas vraiment de création et de devenir de cette création sans culture, c'est-à-dire sans capacité à projeter le présent dans l'histoire de l'art. Et ça, ce n'est pas le moindre défi qui attend l'ère présente, celle des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle, à savoir parvenir à développer une mémoire autre que celle mise en œuvre dans les gadgets électroniques qui font florès, notamment en matière musicale. Alors je pense ici à une mémoire qui serait capable d'assigner à la rationalité technologique des finalités hautement esthétiques. Alors c'est sur ce message que je souhaite non pas clore mon propos, mais l'ouvrir sur un horizon qui me semble s'annoncer dans le spectacle mis en scène par Amos, Isaac Rabin, chronique d'un assassinat, présenté donc à la Philharmonie en 2018. Ce spectacle, vous avez vu un extrait, mais il intègre des extraits de films d'Amos Gitai, dont Le dernier jour d'Isaac Rabin. Il intègre des textes d'Amos Gitai et de Marie-Josée Sanselme, inspirés de Léa Rabin, Oscar Wilde, William Shakespeare et l'Ecclésiaste, ainsi que des musiques interprétées en direct, comme vous l'avez vu, de Jean-Sébastien Bach, Giorgi Ligeti, Gustav Mahler, Maurice Ravel, Ernest Bloch ou Paul Benaim, pardon. Parmi les comédiennes et musiciens, on notera la présence de Barbara Hendricks, d'un chœur que vous avez entendu, et la voix enregistrée de Jeanne Moreau, le tout dans un espace mis en lumière par Jean Calman. Ce spectacle prend bien sûr toute sa place dans le débat sur la mémoire. On ne l'a pas mis ici, mais on pourrait citer l'extrait du Kaddish de Maurice Ravel, chanté par Barbara Hendricks. Et ce qui se dégage de ce spectacle, sur un plan formel, il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas la visée, de mon point de vue, d'une œuvre d'art totale. Mais c'est une sorte d'unité que je qualifierais d'unité disjonctive, qui joue sur les écarts, qui joue sur la conjugaison de matériaux et de procédures techniques hétérogènes, sur des décalages qu'il ne s'agit jamais de réduire, c'est-à-dire qu'Amos assume complètement ces décalages. Et l'art d'Amos Gitai m'inspire donc une dernière digression en forme de question. C'est sur la possibilité qu'ouvre son art de réinventer une forme de spectacle qui ne soit pas dans la logique de l'unification, donc de l'opéra par exemple, mais une sorte de combinatoire ou d'ensemble polyphonique au sein duquel les paroles, les images, les lumières, le chant, la voix sont réunies et recomposées autrement, une manière d'écrire la mémoire qui, à travers son montage, préserve l'identité des pratiques et des codes convoqués, et des arts convoqués, et des disciplines convoquées. Et on pourrait d'ailleurs aisément transposer cette exigence à d'autres problématiques plus larges, plus lourdes de sens sociétal ou à des enjeux géopolitiques d'ailleurs. Et c'est cette polyphonie qui, de mon point de vue, sollicite l'invention. Elle se détache ici sur fond d'un rêve de polysensorialité. Elle dit aussi une conviction qui me semble très forte chez Amos, c'est que si l'art n'obéit pas à un système hiérarchique, il n'est pas pour autant un chaos. Il est plutôt la représentation, le nom des forces conflictuelles que la création oppose en permanence à un monde prétendument rationnel. Voilà. Quelques remarques donc que je pouvais oser formuler sur l'invitation d'Amos. Merci.
Merci beaucoup, Laurent Bell. Encore un extrait ?